France Culture.
On ne peut pas dire que le fascisme soit une émanation de l'état-major allemand. C'est l'émanation de quelque chose de tout à fait autre. Or, c'est là qu'on voit une machine de guerre qui s'autonomise par rapport à l'État. D'où l'idée très bonne de Virilio, encore une fois, l'État fasciste, c'est un État suicidaire. Bien sûr, il s'agit de tuer les autres. Mais on considérera sa propre mort, et c'est ça le thème vraiment fasciste de Vive la mort, on considérera sa propre mort comme le couronnement de la mort des autres.
Deleuze retrouvé. 16 leçons de philosophie. David Lapoujade.
De 1971 à 1987, le philosophe Gilles Deleuze a dispensé des cours au Centre expérimental de Vincennes, puis à l'Université de Saint-Denis. À l'occasion du centenaire de sa naissance, France Culture vous propose une sélection des moments les plus marquants de son enseignement. Dans le cours du 25 mars 1980, Deleuze interroge ce que sont progressivement devenus l'idée et la pratique de la guerre depuis la Seconde Guerre mondiale. Que sont devenus ses objectifs et ses buts avec les nouveaux développements du capitalisme? Il s'inspire dans cet extrait des analyses du grand penseur de la guerre, l'officier prussien du XIXe siècle, Karl von Clausewitz, et de la pensée du philosophe et urbaniste du XXe siècle, Paul Virilio. C'est l'occasion pour Deleuze de revenir sur ce qui distingue fascisme et totalitarisme, mais surtout de dégager le nouvel objet de la guerre, la paix, mais une paix de terreur qui s'accompagne d'une vision sécuritaire à l'échelle du monde, où tout individu peut désormais devenir, je cite, « un ennemi quelconque ». 13e épisode sur les nouvelles terreurs de la guerre, cours du 25 mars 1980.
Je dis une chose très simple, c'est ça un peu, si vous voulez. Le rapport du capitalisme avec sa propre machine de guerre. Il me semble dans les conditions actuelles, pas de tout temps. Tout se passe comme si la machine de guerre moderne, enfin tout ça c'est des hypothèses encore, c'est pas tellement. Ça me paraît plus en vain, plus il est temps vraiment d'arrêter. Tout se passe comme si, oui, la machine de guerre moderne, c'est-à-dire... Mettons depuis la Deuxième Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, mais il y avait des principes avant, il y avait des prémices avant. Tout se passe comme si elle s'était d'une certaine manière autonomisée, mais d'une manière très spéciale, c'est-à-dire comme si elle témoignait d'une puissance de l'axiomatique qui pourtant débordait l'axiomatique elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous rappelez toujours ces concepts de Clausewitz auxquels j'essaie de faire appel, parce qu'ils me paraissent très très éclaircissants. Pour comprendre quoi que ce soit au problème de la guerre. C'est que tout comme le capital, puisque ça on l'a vu la dernière fois, tout comme le capital, et c'est sans doute ça le lien le plus profond de la guerre avec le capital, tout comme le capital, la guerre a un but et un objectif. Et que les deux ne sont pas la même chose. Et que le but de la guerre, c'est le but politique poursuivi par l'État ou les États qui font la guerre. Tandis que l'objectif, c'est l'objectif immanent de la guerre, ce que Clausewitz définit comme renverser ou anéantir l'adversaire. Je dis que pendant longtemps, on pourrait presque définir les guerres précapitalistes comme ceci, en disant que dans les guerres précapitalistes, le but et l'objectif reçoivent une espèce d'accord, une mise en accord variable et assez bien déterminée. À savoir, la guerre poursuit son, la guerre en tant que guerre, poursuit son objectif, renverser l'adversaire, sous la condition d'un but, à savoir, on renverse l'adversaire pour obtenir telle ou telle chose, par exemple, pour conquérir une province, pour gagner un marché économique. Il y a déjà des guerres commerciales, etc., etc. Et renverser l'adversaire, ça peut vouloir dire toutes sortes de choses. Ça dépend à quoi on identifie l'adversaire d'après le but. Tantôt renverser l'adversaire, ce sera détruire l'armée ennemie. C'est-à-dire qu'elle fonctionne comme ça. Le premier signe de, à ce moment-là, la machine de guerre est bien prise dans l'appareil d'État. En effet, l'objectif qui renvoie à la machine de guerre est subordonné au but politique qui renvoie au but politique de l'État qui fait la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque la guerre a tendu à devenir totale? Je crois que l'on peut assigner, en effet, une tendance à la guerre totale dès le moment où le capitalisme s'empare de la machine de guerre et lui donne un développement matériel, un développement matériel fondamental, puisque c'est même par là que les nomades, qui jusque-là étaient la machine de guerre autonome, c'est par là que les nomades vont être dépossédés et périr. Et bien, ce qui se passe, c'est que lorsque la guerre tend à devenir totale, en même temps, l'objectif et le but, il me semble, tendent à entrer dans une espèce de rapport de contradiction. Il y a une tension entre l'objectif et le but. Pourquoi? Ça se voit déjà avec Napoléon. Les grands éléments de la grande première mise en place d'une guerre totale, c'est évidemment les guerres napoléoniennes. Tout le monde le dit, c'est une banalité. Ça ne s'arrangera pas. La seconde grande étape d'une guerre totale, c'est la guerre de 14-18. La troisième grande étape de la guerre totale, c'est le fascisme. Et qu'est-ce qu'il y a de commun à ces trois étapes? C'est finalement, je crois, la déclaration d'une espèce de tension, de contradiction entre le but politique et l'objectif guerrier. Pourquoi? Parce qu'à mesure que la guerre devient totale, l'objectif, à savoir, suivant le terme de Clausewitz, renversement de l'adversaire, ne connaît plus de limite. L'adversaire ne peut plus être identifié à la forteresse à prendre, à l'armée ennemie à vaincre. C'est le peuple entier et l'habitat entier. C'est le peuple ennemi entier, en même temps que du côté du pays, de l'autre pays qui mène la guerre, qui fait la guerre. C'est le peuple entier qui est convié. Donc, l'objectif, renverser l'adversaire, devient tel que l'adversaire ne peut plus être identifié, assimilé à quelque chose de déterminé, mais devient la totalité du peuple ennemi, la totalité de l'habitat ennemi. À ce moment-là, autant dire, l'objectif devient illimité. Et c'est ça la guerre totale. Vous voyez, c'est pour ça que les contresens qu'on fait parfois sur Clausewitz reposent sur un point très précis. Lorsque Clausewitz définissait l'objectif de la guerre par anéantissement de l'adversaire, certains trop hâtivement disent, avec Clausewitz, c'est le créateur du concept de guerre totale. Pas du tout. Anéantir l'adversaire, c'est ce que Clausewitz appelle non pas guerre totale, mais guerre absolue. Et guerre absolue, clausewitzienne, ça n'a rien à voir avec la guerre totale. Puisque la guerre absolue, clausewitzienne, à savoir l'objectif, renverser ou anéantir l'adversaire, reçoit une figure variable d'après ce à quoi l'adversaire est identifié. Renverser l'adversaire, ça peut être encore une fois prendre une forteresse et puis c'est tout. Mais la guerre devient totale lorsque le renversement ou l'anéantissement porte sur la totalité du peuple ennemi et la totalité de l'habitant. À ce moment-là, l'objectif devient illimité. Pourquoi? C'est sans fin. Et je rappelle les textes qui me paraissent les meilleurs d'analyse du fascisme. Mais d'une certaine manière, c'était déjà évident pour Napoléon. Lorsque, par exemple, Hannah Arendt ne cesse pas de dire ça dans son livre sur le totalitarisme. Alors peu importe que pour elle, elle identifie totalitarisme et fascisme, mais ce qu'elle dit, à mon avis, ne vaut que pour le fascisme, et pas du tout pour le totalitarisme. C'est évident que le fascisme, on ne peut le définir que comme ça. Pas par un appareil d'État. L'appareil d'État, ça le montre très bien dans l'analyse des institutions fascistes. C'est une espèce de façade. C'est une espèce de façade. C'est un bureau derrière lequel il y a toujours un autre bureau. Ce qui définit fondamentalement le fascisme, c'est le déclenchement d'un mouvement qui n'a pas d'autre fin que le mouvement. C'est-à-dire l'objectif illimité. Un mouvement qui n'a pas d'autre fin que le mouvement. donc qui n'a pas d'autre fin que sa propre accélération. C'est précisément le mouvement de la destruction absolue. Alors ça, c'est très très important dans le livre de Hannah Arendt. Ça a été traduit en français sous le titre, je crois, « Le totalitarisme au seuil ». Et ça recoupe tout à fait les analyses de Virilio sur l'État fasciste. Ça recoupe aussi des textes des lieutenants de Hitler ou de Hitler lui-même quand ils invoquent un mouvement sans destination ni but. Le mouvement sans destination ni but, c'est le mouvement de la destruction pure, c'est-à-dire c'est le mouvement de la guerre totale. Alors je dis juste à ce moment-là, il y a comme une espèce d'autonomisation de la machine de guerre par rapport à l'appareil d'État. Et c'est vrai que le fascisme, c'est pas l'appareil d'État. Bien plus, je dirais, pour compliquer les choses, mais ça va trop de soi. Il ne suffit pas que des militaires prennent le pouvoir quelque part pour qu'une machine de guerre s'autonomise. Dans les régimes totalitaires, à proprement parler, c'est souvent les militaires qui ont le pouvoir. Ce n'est pas du tout un régime machine de guerre. Au contraire. C'est un régime totalitaire au sens où on a dit l'état minimum. Mais l'état fasciste, c'est tout à fait autre chose. L'état fasciste, c'est, et justement, ce n'est pas par hasard que les fascistes n'étaient pas des militaires. Un état-major, quand il prend le pouvoir, il peut faire un régime totalitaire. Un régime fasciste, beaucoup moins sûr. Un régime fasciste, c'est tellement une idée de tordu, c'est même pas les militaires. L'état-major allemand, il a été, finalement, il a été... Il aurait bien voulu le pouvoir, mais justement, Hitler l'a devancé. Alors, il y a pu y avoir tous les arrangements qu'on voulait. On ne peut pas dire que le fascisme soit une émanation de l'état-major allemand. C'est l'émanation de quelque chose de tout à fait autre. Or, c'est là qu'on voit une machine de guerre qui s'autonomise par rapport à l'État. D'où l'idée très bonne de Virilio, encore une fois, l'état fasciste, c'est un état suicidaire. Bien sûr, il s'agit de tuer les autres. Mais on considérera sa propre mort, et c'est ça le thème vraiment fasciste de vive la mort, on considérera sa propre mort comme le couronnement de la mort des autres. Ça, vous le trouvez, ça, en effet, vous le trouvez dans tous les fascismes. Le totalitarisme, c'est pas ça du tout. Hein. C'est beaucoup plus, comment dirais-je, c'est beaucoup plus petit bourgeois, le totalitarisme. C'est beaucoup plus conservateur. Enfin, peu importe, on a déjà vu tout ça. Je dis... Ça, tout ça, c'est un peu pour répondre à une question qui, d'une certaine manière, avec le recul des années, nous paraît de moins en moins évidente. Pourquoi diable les États-Unis ont-ils préféré s'allier à la Russie de Staline, à l'URSS stalinienne, plutôt que s'entendre avec Hitler? On se dit, après tout, une fois que c'est fait, on se dit, bon... C'est pas tellement évident au début. Ça n'a pas été tellement évident, même au niveau des alliés, au niveau de l'Angleterre et de la France. Tout le monde sait à quel point il y avait un schéma politique intéressant, à savoir on lâchait l'Allemagne fasciste sur la Russie. C'était intéressant, ça. Bon, ça aurait pu se faire. À la question pourquoi finalement ce qu'il a emporté, ça a été la tendance à une alliance avec le régime stalinien plutôt qu'avec le régime hitlérien. Je crois que la réponse est relativement simple. C'est que les alliés ont dû avoir, je suppose, l'impression assez vite que dans le régime fasciste, il y avait autonomisation d'une machine de guerre qui finalement était à la limite incontrôlable par le capital. Je suppose, hein, c'est une hypothèse comme ça, une hypothèse très abstraite, une hypothèse d'être idiote. Bon. Et que finalement, le régime stalinien ou le régime socialiste bureaucratique était capable de donner au capital une sécurité et des garanties beaucoup plus intenses. Si vous voulez, c'est affreux à dire, il me semble. Mais ce qui est affreux à dire, c'est que dans des mouvements fascistes, il y a un caractère de masse dont les pays capitalistes devaient se méfier beaucoup. Une espèce de mouvement de masse, de mouvement d'appel à une espèce de... on vous aura, on tuera le monde et puis on se tuera après. Il y a quelque chose, il y a une espèce de machine, de mouvement pour le mouvement. Et un des points les plus forts dans le livre de Hannah Arendt, c'est lorsqu'elle montre que plus les nazis voyaient qu'ils allaient perdre la guerre, ils le sentent très vite. Bien loin que ce soit pour eux un motif d'arrêter ou de modérer le mouvement, c'est un motif de précipiter. Ils ne peuvent durer, ils ne peuvent repousser l'issue, à savoir la perte de la guerre, qu'en accélérant la guerre. Ils ne peuvent pas faire autrement. Si cette hypothèse est juste, ben je crois que c'est ça la raison la plus profonde pour laquelle les Alliés ont fait l'alliance. Avec le régime stalinien et pas avec le régime. Parce qu'à d'autres égards, ça leur aurait beaucoup plus plu de faire l'alliance avec le régime, nazi. Donc, voilà cette situation très très curieuse. Où l'objectif de la guerre, quand la guerre devient totale, l'objectif de la guerre devient illimité et entre à ce moment-là en conflit avec les buts politiques qu'un appareil d'État jusque-là poursuivait à travers la guerre. Comment lever ce conflit ? Ben en effet, c'est ce qu'on disait, c'est ce que Virilio, il me semble encore une fois, analyse bien quant à la machine de guerre actuelle. Là où les fascistes aussi n'étaient que des précurseurs, là où les nazis n'étaient que des précurseurs, c'est que ils avaient constitué comme une espèce d'autonomie de la machine de guerre, avec tout un régime d'économie subordonné à cette machine de guerre, subordonné à l'armement, etc. Ils avaient fait tout ça. Mais ils avaient encore besoin que cette machine de guerre s'effectue dans des guerres. En d'autres termes, ils gardaient quelque chose de la vieille formule, à savoir, la guerre sera la matérialisation de la machine de guerre. Alors, ce que je dis est très sommaire, à force d'essayer de tailler des notions, des concepts. Je ne veux pas dire qu'aujourd'hui, ce ne soit pas comme ça. La machine de guerre, aujourd'hui, ben, c'est évident, elle poursuit aussi des guerres. Elle a aussi besoin. C'est évident. On le voit tout le temps. Et je dis que quand même, il y a quelque chose qui a changé, elle n'en a pas besoin de la même manière. Je dirais... On tend vers la situation suivante, pour être prudent. On tend vers la situation suivante. Où la machine de guerre moderne n'a même plus besoin de se matérialiser, ou n'aurait même plus besoin à la limite de se matérialiser dans des guerres réelles, car ce serait elle-même la machine de guerre qui serait guerre matérialisée. En d'autres termes, la machine de guerre n'a même plus besoin d'avoir pour objet des guerres, puisqu'elle découvre son objet dans une paix de la terreur. Elle a conquis son objet le plus ultime, adéquat à son caractère total, à savoir la paix. Ce qui implique quoi ? Évidemment, ce qui implique toutes les visions catastrophiques, apocalyptiques d'aujourd'hui. Alors ne me faites pas dire qu'il n'y a plus de guerre. Bien sûr, il y a encore des guerres, mais ces guerres sont devenues des parties de la paix elles-mêmes. Et qu'est-ce qu'a voulu dire le concept de guerre froide, sinon ça ? Le concept de guerre froide a signifié, il me semble explicitement, l'état d'une machine de guerre qui, pour des raisons quelconques, ne tendait plus à se matérialiser, sauf par accident, toujours possible, disait-on, ne tendait plus à se matérialiser dans une guerre réelle, mais était en elle-même et par elle-même une guerre matérialisée, ce qui faisait dire déjà à beaucoup d'auteurs américains depuis très longtemps, mais la Troisième Guerre mondiale, nous y sommes, elle a déjà commencé. D'où toutes les remarques de Virilio à cet égard m'apparaissent justes lorsque Virilio assigne et donne les caractères suivants. Cette nouvelle machine de guerre, que j'appelle la puissance, donc. Voyez son rapport avec le capitalisme. À la fois comment le capitalisme ne la contrôle pas et comment en même temps le capitalisme est en rapport fondamental avec elle, en rapport de confrontation fondamentale avec elle. Ben, les caractères signalés par Virilio, encore une fois, c'est cette machine de guerre là prend pour objet la paix et non plus la guerre. Dès lors, c'est tout le thème de l'ennemi, deuxième trait, c'est tout le thème de l'ennemi qui change. L'ennemi devient l'ennemi quelconque. Et là, c'est vraiment une notion axiomatique, celle de l'ennemi quelconque. Cette machine de guerre acquiert un pouvoir de capitaliser. Comment dire, un savoir, et pas seulement un savoir, une puissance scientifique et technologique pratiquement illimitée. D'où la tendance à ce que les distinctions même entre la guerre et la paix s'atténuent, tendent à disparaître. D'où enfin le phénomène général de la militarisation des fonctions civiles, notamment par assignation de l'objet quelconque, qui n'importe quoi. Ça peut être aussi bien des sauterelles sur un écran de radar que trois Indiens à la file, qu'une fusée, que tout ça. Là, il y a un curieux truc de troglodyte. Alors, je me dis, dans les métiers modernes, oui, sous-marin atomique, qu'est-ce que c'est que ces types qui vivent là, qui ont comme gîte le sous-marin. Et quels yeux ils ont? Ah oui, regarde les radars, où ils voient les choses comme des espèces de nuées à interpréter. Bon, cette idée des crabes ou des ennemis qui arrivent. Bon, à la limite, c'est l'ennemi quelconque. Bon, bien, voilà. Voyez, voilà tout ce que j'essaierai de grouper sous cette cinquième rubrique. Et en effet, en quoi cette machine de guerre, c'est l'équivalent d'une sorte de puissance du continu. C'est qu'au niveau de cette machine de guerre, et là je pense encore une fois à des textes de Paul Virilio qui explique ça, qui développe ça très très bien, c'est que tous les points de l'espace, si distants qu'ils soient, sont mis en contact. Sont mis en contact, c'est-à-dire tous les points de l'espace existent en voisinage topologique. Si distants soient-ils physiquement et géométriquement, ils sont en voisinage topologique. C'est ce qu'on appelle l'âge de la guerre nucléaire. Or, c'est évident que si la guerre nucléaire nous est présentée comme une espèce de limite d'apocalypse, etc., c'est presque au sens. Il faudrait confronter, si vous voulez, ma rubrique 4, la puissance, et la rubrique 2, saturation. Puisque l'apocalypse de la guerre nucléaire, c'est exactement la limite, ça correspond tout à fait à la limite de notre autre registre, du registre 2, concernant la saturation. C'est une limite immanente. Si elle prend l'aspect apocalyptique, c'est pas d'une autre manière, en deçà de la limite, elle s'exerce comme telle déjà. Elle s'exerce entièrement comme telle, elle ne cesse pas de repousser sa limite. Mais en même temps, c'est elle qui trace la nouvelle carte du monde, qui en effet est une carte qui n'est plus du tout une carte géographique, mais une carte topologique. Avec mise en contact des points les plus éloignés.
Vous êtes bien sur France Culture.